Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office. Ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes mercredi 11 Bahman 1402 du calendrier iranien, 31 janvier 2024. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. L'Iran prévient les États-Unis d'une réponse foudroyante à toute agression. La République islamique d'Iran apportera une réponse décisive à toute attaque, a annoncé l'ambassadeur d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies. Les futurs lanceurs de satellites iraniens mettront en orbite des cargaisons de 15 tonnes, a annoncé le ministère iranien de la Défense. Et le retrait des fonds de l'ONRWA entraînerait l'effondrement du système humanitaire à Gaza, a annoncé l'Organisation des Nations Unies. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le représentant permanent de l'Iran et l'ambassadeur auprès des Nations Unies a averti que la République islamique d'Iran répondrait de manière décisive à toute attaque contre le pays, ses intérêts et ses ressortissants. Amir Saïd Iravani a déclaré que la politique fondamentale de l'Iran est de répondre fermement aux ennemis en cas d'attaque. Cette déclaration intervient après que le président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes qu'il avait pris une décision sur la manière de répondre à l'attaque meurtrière de drones de dimanche dernier contre une base américaine en Jordanie. Biden n'a pas blâmé l'Iran pour l'attaque, mais a déclaré qu'il tenait Téhéran pour responsable de la fourniture d'armes au groupe qui avait revendiqué la responsabilité de l'attaque. Le ministre iranien de la Défense affirme que le programme spatial du pays est entièrement scientifique et vise à développer des technologies à des fins civiles et pacifiques. Le porte-parole du département spatial du ministère iranien de la Défense, Ahmad Hosseini Mounes, a réitéré le droit légitime de Téhéran à faire des progrès dans les domaines scientifiques, dont l'aérospatial. Hosseini Mounes a également critiqué les réactions négatives face aux avancées de l'Iran dans ce domaine et au récent lancement réussi de plusieurs satellites dans l'espace. Selon lui, ces réactions sont dues aux inquiétudes de certains pays quant à l'influence grandissante de l'Iran, qui efface leur monopole dans ce domaine. il a également révélé que l'Iran lancerait davantage de satellites dans un avenir proche. Le ministère iranien de la Défense affirme que l'Iran envisage, dans le cadre d'un projet à long terme, de développer les lanceurs de satellites capables de mettre en orbite des cargaisons pesant jusqu'à 15 tonnes. Dimanche, pour la première fois, l'Iran a réussi à placer simultanément 3 satellites de fabrication nationale en orbite à l'aide de la fusée porteuse Simorgh. Le retrait des fonds entraînerait l'effondrement du système humanitaire à Gaza, s'alarme l'Organisation des Nations Unies en réaction à la suspension de financement de l'UNRWA. Plusieurs agences des Nations Unies ont mis en garde contre les conséquences catastrophiques de la décision de certains pays de réduire le financement de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Dans une déclaration commune, les chefs de plusieurs organes de l'ONU ont qualifié de périlleuse l'arrêt de financement de l'UNRWA, avertissant qu'elle conduirait à l'effondrement du système humanitaire à Gaza. Le groupe a déclaré qu'un tel effondrement aurait des conséquences humanitaires et des droits de l'homme de grande envergure dans le territoire palestinien occupé et dans toute la région. Plus tôt, le coordinateur de l'aide de l'ONU pour Gaza a souligné la grande capacité de l'UNRWA à fournir et à distribuer l'aide dans toute l'enclave assiégée. Sigrid Kaag a déclaré qu'aucune autre organisation ne peut remplacer l'UNRWA compte tenu de la capacité de l'agence et de sa connaissance de la population de Gaza. Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur britannique à Téhéran pour lui faire part de la ferme protestation de la République islamique d'Iran face aux accusations sans fondement portées par le Royaume-Uni contre Téhéran. Simon Cherflik a été convoqué mardi 30 janvier au ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran par le directeur général du département de l'Europe occidentale, un jour après que Londres a imposé des sanctions à cet individu et à une organisation iranienne, affirmant qu'il ciblait des dissidents iraniens dans d'autres pays à la suite d'une démarche similaire de la part des États-Unis. L'Iran a officiellement participé pour la première fois en tant que membre à part entière, à une réunion du groupe des économies émergentes BRICS en Russie, moins d'un mois après son adhésion au bloc économique. Les vice-ministres des Affaires étrangères des 10 pays membres du bloc participent à l'événement. Au cours de la réunion de 3 jours à Moscou, des représentants de l'Iran, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de l'Égypte et de l'Éthiopie échangeront leurs points de vue sur les projets des BRICS en 2024. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique. La mission permanente de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a averti les États-Unis que tout acte d'agression contre l'Iran et son peuple entraînerait une réponse écrasante. Dans un communiqué publié mardi, la mission a catégoriquement rejeté les allégations des médias concernant l'échange de plusieurs messages entre les États-Unis et l'Iran dans un contexte de montée des tensions régionales. De tels messages n'ont pas du tout été échangés. Néanmoins, cela constitue une politique de principe de la République islamique d'Iran de répondre de manière décisive et énergique à toute mesure hostile contre nos intérêts nationaux et nos ressortissants, a souligné Amir Saïd Iravani, le représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies. Certains médias ont prétendu qu'au cours des deux derniers jours, Washington avait envoyé plusieurs messages à Téhéran par l'intermédiaire de tiers, indiquant qu'il ne voulait pas d'une guerre ouverte et a averti qu'une escalade entraînerait des représailles américaines. Les rapports affirment en outre que Téhéran a dénoncé les menaces de Washington et a déclaré que toute attaque sur son sol constituerait une transgression de la ligne rouge. Ni Washington ni Téhéran n'ont confirmé les informations faisant suite à une attaque de drones contre une base américaine dans le nord-est de la Jordanie, près de la frontière syrienne. L'armée américaine a confirmé que 3 soldats américains avaient été tués et au moins 25 autres blessés lors de la frappe, accusant les groupes soutenus par l'Iran d'en être responsables. L'ambassadeur permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a également rejeté les accusations américaines dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Amir Saïd Iravani a affirmé sans équivoque qu'aucun groupe affilié aux forces armées de la République islamique d'Iran, que ce soit en Irak, en Syrie ou ailleurs, n'opère directement ou indirectement sous le contrôle de la République islamique d'Iran ou n'agit en son nom. Par conséquent, la République islamique d'Iran n'est responsable des actions d'aucun individu ou groupe dans la région, a ajouté le diplomate. Les combattants de la résistance irakienne ont mené des dizaines de frappes contre les installations militaires américaines en Irak et en Syrie, en représailles au soutien ciblé de Washington à la campagne génocidaire d'Israël à Gaza. Israël a lancé la guerre contre la bande de Gaza à la suite d'une opération historique menée par le mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, basé à Gaza, contre l'entité occupante, en représailles à l'intensification de ses atrocités contre le peuple palestinien. Après plus de 110 jours de campagne militaire, le régime israélien n'a atteint aucun de ses objectifs, malgré le meurtre d'au moins 25 000 personnes à Gaza, dont environ 70% de femmes et d'enfants. Plus de 65 000 autres personnes ont été blessées. Les États-Unis ont fourni à Israël des armes et des services de renseignement et ont bloqué les résolutions de l'ONU appelant à un cessez-le-feu humanitaire dans le territoire palestinien.
Bonjour à tous, bienvenue ici sur les plateaux de télévision de Presse TV dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour étant l'exploit technique et technologique de l'envoi de 3 satellites pratiquement en même temps cette semaine ici en Iran. Ce n'est plus dans les mains technologiques de l'Occident que d'envoyer des satellites dans l'espace. C'est maintenant accessible. L'Iran en a fait sa technologie et c'est ce qu'il a prouvé cette semaine. Nous vous proposons un reportage qui vous résumera un petit peu les capacités satellitaires qui ont été envoyées, le but, mais également l'exploit de cette semaine pour l'Iran. Je vous propose donc le reportage.
L'Iran a réussi à mettre en orbite 3 satellites de fabrication locale à une altitude minimale de 450 km et maximale de 1100 km au-dessus de la surface de la Terre. Les satellites Mahda, Kayhan 2 et Hatef 1 ont été lancés dimanche 28 janvier 2024 depuis le terminal de lancement spatial Imam Khomeini dans la province de Semnan par le lanceur Simorgh fabriqué par le ministère iranien de la Défense. Mahda est un satellite de recherche conçu, fabriqué, assemblé et testé au Centre iranien de recherche spatiale. Pesant 32 kg, il s'agit d'un satellite léger développé pour tester des sous-systèmes satellites avancés. La tâche principale de Mahda est d'évaluer les performances du lanceur Simorgh en matière d'injection multiple de fret spatial à basse altitude. Il s'agit également de connaître le niveau des nouvelles conceptions, la fiabilité des technologies indigènes dans l'espace. Les nanosatellites Kayhan 2 et Hatef 1 ont également été conçus et développés pour leur lancement par Iran Electronic Industries, une filiale publique du ministère de la Défense. Tous deux sont des nanosatellites cubiques pesant moins de 10 kg. Kayhan 2 est développé pour le positionnement spatial. Il dispose de sous-systèmes de détermination de statut et de contrôle pour viser de manière stable et précise vers la Terre. Hatef 1 cherche à prouver l'utilisation de la technologie de communication à bande étroite dans l'Internet des objets ou IDO. Malgré les sanctions imposées par les pays occidentaux ces dernières années, l'Iran a réussi à faire des pas de géant dans son programme spatial civil. Il fait partie des 10 premiers pays au monde capables de développer et de lancer des satellites. La semaine dernière, la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique CGRI a mis en orbite le satellite Soraya à l'aide du porte-satellite KM-100. Le ministre iranien des télécommunications, Issa Zarepour, a déclaré que pour la première fois, Simorgh avait mis simultanément en orbite le satellite Mahda et 2 autres charges utiles de recherche, ajoutant que le signal de Mahda avait été reçu. Je félicite cette réalisation importante au peuple bien-aimé et aux experts de l'espace, en particulier mes collègues du Centre iranien de recherche spatiale et du ministère de la Défense, a-t-il noté.
Nous voilà donc sur les plateaux. Tout de suite, la venue de nos deux invités. Pour le sujet d'aujourd'hui, nous avons proposé de nous rejoindre M. Habib Tava, analyste politique et expert des questions du Moyen-Orient. M. Tava, ravi de vous avoir ici avec nous sur les plateaux de Presse TV.
Merci de me recevoir.
Alors, notre deuxième invité étant M. Bernard Cornu, expert également, suivant très régulièrement l'actualité ici au Moyen-Orient, donc également expert. M. Cornu, ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous.
Bonjour et bonjour à toutes et à tous.
Alors, on va commencer par notre premier invité, M. Tava. Alors, nous avons vu l'Iran lors des dernières sanctions, dont notamment les chaînes Presse TV ont été coupées de leur ligne satellitaire. Nous avons vu depuis l'Iran se concentrer énormément sur l'envoi de satellites militaires, météorologiques, mais également dans le but très certainement de pouvoir être plus indépendant des systèmes occidentaux, que ce soit au niveau des liaisons de l'Internet, des liaisons satellitaires au niveau de l'audiovisuel. C'est un pas important. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Taviv ? D'abord.
Je vais vous dire que moi, je suis impressionné effectivement par le bond technologique qui est réalisé par l'Iran. Je pense que
alors, on vous
mon collègue, M. Corinne, de pouvoir rester d'une technique qui permet de se libérer du carcan que l'Occident a voulu imposer à l'Iran, puisque après tout, en faisant le boycottage de l'Iran, il s'agissait de l'empêcher de s'ouvrir au monde, d'éviter de venir. Et ça, c'est un pas qui est très important. Et ce qui est intéressant dans l'exposé que vous venez de faire, c'est qu'on voit de façon assez précise le type de performances qui sont faites par ces trois satellites, un gros et deux plus petits, qui s'équilibrent dans leurs fonctions. Le fait que vous ayez réussi à échanger avec le satellite et que donc le contact est établi, parce que quand on envoie un satellite, il ne suffit pas de l'envoyer seulement. Il faut ensuite que les communications entre le satellite et la Terre soient de bonne qualité. Et visiblement, vous vous dites que vous les avez. Donc vous avez fabriqué un outil qui fonctionne. Il ne s'agit pas seulement de fonctionner l'outil, il faut aussi qu'il fonctionne. Et donc ça, il y a de quoi vous féliciter. Et c'est impressionnant parce que à partir d'un seul lanceur, d'après ce que j'ai entendu, Simon, je crois bien,
oui,
vous
Simon.
Avez réussi à éjecter trois satellites, un gros et deux plus petits. Et donc je vous félicite.
Merci, M. Tava, pour votre analyse. Alors, M. Bernard Cornu, nous étions ensemble l'année dernière lorsque les dernières sanctions, notamment audiovisuelles, ont eu lieu ici avec l'Iran, notamment avec la chaîne Presse TV, la version anglaise. Nous avons vu les conséquences, le fait que des contrats ont été rompus du fait de sanctions internationales. Souvent illégal puisque basé sur aucune vérité. Monsieur Cornu, qu'est-ce que vous en pensez? En quoi ça serait un bienfait pour l'Iran d'accueillir ce genre de technologie et de faire fi finalement des critiques, également des critiques internationaux qui finalement les accompagnent?
Oui, c'est un beau projet, un beau progrès technologique qui témoigne aussi de la qualité de l'enseignement scientifique et technologique en Iran. Le progrès des pays dépend des systèmes éducatifs principalement, et ceci est un beau témoignage des progrès assurés en Égypte, en Iran, par les différentes écoles scientifiques, les écoles d'ingénieurs, l'école polytechnique de Téhéran, et par la capacité de l'industrie privée et publique de l'Iran de mettre en œuvre ces technologies pour en faire des outils industriels capables d'assurer tous ces progrès. Et donc, ceci est un beau succès. C'est vrai que l'indépendance technologique pour les télécommunications, transmission, pour le repérage satellitaire, pour l'observation de la Terre, sont très importants pour des pays comme grands pays comme l'Iran, qui ont un climat très contrasté entre les montagnes dans différentes régions et les déserts, les zones côtières, l'importance aussi dans le golfe arabo-persique de la circulation. Donc tous ces moyens technologiques pour l'observation, pour le suivi des objets, est très important. Bravo encore à toutes les équipes civiles et militaires de l'Iran qui ont participé à ces.
Alors, comme vous venez de dire, Monsieur Cornu, c'est vrai que l'Iran, donc le gouvernement iranien, avait fait appel.
Progrès technologique, iranien.
Merci, Monsieur Cornu. Comme l'a dit Monsieur Cornu il y a un instant, il y avait eu un appel à projet d'un point de vue civil pour continuer le programme satellitaire iranien d'un point de vue militaire. Donc c'est ce qui se passe. Il y a eu des envois de deux nanosatellites et ça c'était dans un but beaucoup plus civil, même si c'était gouvernemental. Monsieur Tava, nous avons vu plusieurs pays dans le monde, notamment en Afrique. Nous avons également vu l'Inde. émerger avec des technologies qu'ils n'utilisaient pas auparavant. Nous avons vu l'Égypte avec, nous savons que l'Égypte a un gros programme satellitaire et spatial avec l'Afrique du Sud. Nous savons également que l'Inde a envoyé même une sorte d'appareil sur la Lune. Tout ça sont des pays, on va dire, que l'Occident appelle émergents. Et pourtant, beaucoup de principes scientifiques sont, occidentaux sont basés sur leurs propres recherches. Est-ce que ça veut dire que, en plus de cette, géopolitique actuellement militaire, il y a également cette volonté d'indépendantisme, même d'un point de vue scientifique, et de se réapproprier finalement les savoirs qui ont toujours existé?
C'est tout à fait exact. Comme vous le dites, il y a ce qu'on appelle le Grand Sud aujourd'hui, c'est l'expression qui est usitée, qui se démarque par rapport à l'Occident et qui non seulement a pris du recul du point de vue politique et du point de vue économique par rapport au desiderata de l'Occident, il y a aussi là une volonté très nette de s'affirmer dans une indépendance technique, puisque finalement notre civilisation est une civilisation humaine très technicienne, dans laquelle l'homme met à son service la nature. Et dans ce contexte, il est évident que simplement de vouloir contester la prédominance politique ou économique ne suffit pas en soi. Il faut aussi affirmer sa présence technique, affirmer que l'on peut être indépendant, que l'on n'est pas l'esclave de l'Occident. Parce que c'était ça, finalement. Quand l'Occident a donné à la Chine, par exemple, la nouvelle technologie pour en faire l'usine du monde, le but était de la tenir en ayant les clés du savoir. Et à partir du moment où on prend les clés du savoir soi-même, où l'Iran se définit comme une puissance en soi et non pas une puissance dépendante culturellement, techniquement, du point de vue de la formation des hommes, parce que c'est important, les hommes. Ce sont les hommes qui font les machines, ce sont les hommes qui font les techniques. Et à partir du moment où les hommes en Iran se mettent au niveau où ils peuvent faire les choses et les réalisent, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir seulement des spécialistes. Dans le monde entier, il y a des gens très instruits, mais qui sont dans un environnement qui ne leur permet pas de s'affirmer. Là, vous avez un environnement technique humain et toute une infrastructure, parce qu'il faut toute une infrastructure pour pouvoir lancer un satellite. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez vous-même décrit les caractéristiques techniques de tous ces appareils, et ça ne peut venir que de gens qui dominent le sujet dans sa totalité. On trouve ça très sympathique de dire on a lancé une fusée, oui, mais la prime passe, oui. Il faut avoir des échanges avec que le système soit vérifié, validé, que les informations qui sont collectées reviennent sur Terre, qu'il y ait des gens pour les exploiter. Toutes ces choses qui ont l'air évidentes quand on les voit au cinéma ne sont pas évidentes dans le concret. Et le fait d'y parvenir dans le concret permet, comme vous l'avez dit, à des pays comme l'Afrique du Sud et l'Égypte, et évidemment l'Iran, de s'affirmer dans un plan où on voulait les marginaliser, garder le mot de la technique pour l'Occident et laisser les miettes aux pays du Grand Sud. Et aujourd'hui, les pays du Grand Sud sont eux aussi, avec le BRICS, dans lequel l'Iran a adhéré tout récemment, depuis le début de l'année, l'Iran se trouve avec l'Égypte, avec l'Afrique du Sud, avec le Brésil aussi, dont on ne parle pas souvent, des gens qui peuvent être des compétiteurs, si ce n'est des devanceurs, le cas échéant, de l'Occident. Le monde bascule. Le monde est en train de basculer. On le voit en Palestine, sur le terrain. On le voit dans les rapports de...
Monsieur Tava, alors... Monsieur Bernard Cornuge, donc je saute sur les propos tenus par...
Ah. Et
Alors, Monsieur Cornu, je vais vers vous pour vous poser une autre question. Nous avons vu l'Inde et l'Iran énormément se rapprocher. Alors, on sait qu'il y a le principe de BRICS, le fait que l'Iran est rentré dans les BRICS. Donc, il y a une bonne raison pour que l'Inde et l'Iran, finalement, s'associent sur plusieurs dossiers. Et pourtant, il y a des problèmes géopolitiques entre les deux États. Est-ce qu'il peut également y avoir une raison, comme indiqué sur ce sujet d'aujourd'hui, une raison scientifique, une raison technologique, parce que les deux pays tendent actuellement à vouloir une véritable indépendance, même scientifique, bien que beaucoup de scientifiques indiens et iraniens travaillent à travers le monde. Donc quand je veux dire une montée scientifique, c'est par un point de vue, étatique. Monsieur Bernard Cornu.
Oui, les échanges scientifiques se développent à l'échelle mondiale. Les étudiants brillants, avancés, peuvent facilement avoir des visas pour aller quelques années dans des universités d'autres pays. Et donc, ils se connaissent. Souvent, ils parlent 3 ou 4 langues et ils échangent par le biais de leurs revues scientifiques, de leurs colloques. Donc, la science progresse au niveau mondial. Et donc, c'est normal que des pays qui ont pu être un peu en retard.
Alors, Monsieur Cornu, est-ce que vous êtes toujours là? Monsieur Tava, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends, vous m'entendez?
Oui, je parlais des connexions dans le monde scientifique entre tous les étudiants et tous les chercheurs du monde entier. Et c'est bien mal qu'ils échangent entre eux par le biais des revues, des colloques, des stages et de leur collaboration
programmes. Il y a aussi une autre, Monsieur Cornu, il y a aussi une autre vision à percevoir, c'est que beaucoup de scientifiques dans les pays indiqués sont partis de leur pays par manque de moyens. Comme l'a dit Monsieur Tava, il faut toute une concentration, toute une organisation pour pouvoir faire ce genre de recherche. En voyant par le biais de la télévision et par le biais de la communication les démarches employées par ces États, il est donc possible que les scientifiques également de ces deux États qui représentent d'un point de vue des dernières recherches scientifiques approuvées aux États-Unis, la plupart envoient un nom iranien ou un nom indien. Alors si jamais ces immigrés ou ces familles d'immigrés reviennent dans leur pays, il va pouvoir y avoir un gros saut en avant pour des pays comme l'Iran. Et là, je fais la comparaison des deux parce qu'ils se ressemblent beaucoup dans les avancées scientifiques et surtout dans l'exploitation des scientifiques à l'extérieur de leur pays. Il se pourrait donc que ces scientifiques reviennent dans leur pays de naissance ou le pays de naissance de leurs parents. Monsieur Cornu, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision possible des choses?
Tout à fait. Les échanges se font dans les deux sens parce qu'un scientifique indien ou iranien qui travaille aux États-Unis, il apporte aux États-Unis par sa spécialité, par ses efforts, par ses idées, mais aussi il apprend aussi beaucoup de ses collègues. Et donc, quand les conditions sont favorables pour des raisons de famille, de culture, qu'il ait envie scientifique et envie de retourner dans son pays, il apporte aussi des choses nouvelles. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une grande liberté pour les visas des scientifiques et que le mouvement ne soit pas dans un seul sens, que ce soit des échanges. Alors, c'est vrai que les conditions imposées par les États-Unis à beaucoup de pays, par leurs sanctions, la plupart du temps illégales, font qu'il est parfois qu'il y a plus de moyens pour la recherche et que certaines restent en jeu. Mais je crois que si la justice revient dans le monde, qu'on n'applique pas de poids et de mesure et qu'il y a progressivement sur toutes les guerres qu'il y a actuellement dans le monde, les scientifiques pourront chacun préférer de revenir dans leur pays, participer au développement de leur pays. C'est un mouvement naturel. Je pense qu'il faut le souhaiter. C'est la paix, la justice qui permettra que les gens reviennent dans leur pays pour participer au développement de leur propre pays.
Merci, Monsieur Cornu. Monsieur Tavar, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Cornu, sachant que là, la question était basée sur le fait que nous savons que la plupart des dernières recherches et évolutions scientifiques, par exemple en Europe ou aux États-Unis, sont dues à des scientifiques qui n'ont pas forcément grandi dans ces pays, des pays souvent d'origine d'Inde ou même d'Iran. Hein. Nous savons qu'en regardant Google et le nombre de noms iraniens dans le domaine de la recherche et de l'intelligence artificielle, artificielle. On retrouve beaucoup de noms ici de l'Iran. Est-ce qu'il peut s'avérer qu'avec de tels projets et la réussite de tels projets et les crises actuellement politiques qu'on peut retrouver dans ces pays, il y ait donc ce retour en arrière de ces scientifiques et le retour pour eux est donc une évolution scientifique encore plus importante pour ces deux pays, par exemple, puisque nous avons fait le parallèle avec ces deux pays.
Il y a un point qui est implicite dans notre conscience, qu'il est important de souligner, c'est la notion que les Américains qualifient de brain drain, c'est-à-dire on pompe les savants, les gens qui connaissent dans les autres pays. Finalement, l'Iran, pour instruire ces gens, a payé de l'argent, a fait des universités. Et puis finalement, ils ont été absorbés par l'Occident et les Occidentaux ont récupéré des agents de haute qualité à bon prix, puisqu'ils n'ont même pas eu à les former. Donc ça, c'est un phénomène qui aussi relève de ce rapport inégal qui existe entre l'Occident et les pays émergents. C'est qu'on voudrait finalement qu'ils se forment et qu'ils viennent en Occident. Et ensuite, la sève d'origine se perd au profit des autres. Et donc ça, c'est un point qui est important. Ces gens partent pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas chez eux des conditions, non seulement matérielles, mais même collectives, c'est-à-dire il n'y a pas des laboratoires, il n'y a pas des centres qui permettent de les accueillir. À partir du moment où ces centres de recherche sont créés sur place, cette évolution existe, les gens sont disposés éventuellement à travailler à moindre prix, mais dans des conditions plus confortables, plus naturelles, chez eux. Donc c'est ce système de transfert des cerveaux que l'on voit se produire et qui est commun. Vous voyez par exemple l'Afrique est en train de perdre une bonne partie de ses médecins au profit de la France qui elle dépense moins d'argent pour produire des médecins et prend des médecins africains. Et pareil pour les Indiens, vous avez parlé des Indiens. L'informatique indienne a pris son essor à partir du moment où ils ont trouvé un lieu de développement chez eux. Mais sinon, on prenait des scientifiques indiens et on les menait à l'étranger et ils ne trouvaient pas de terrain fertile chez eux. Il est donc important qu'il y ait un terrain fertile chez nous, dans les pays du Sud, pour pouvoir maintenir un développement endogène dans nos pays, ce que je me considère comme étant originaire de ces pays du Sud. Et à ce moment-là, le niveau de vie d'ensemble pourra se développer. Mais c'est une dynamique qui doit inverser cette dynamique opposée qui a été utilisée, que non seulement on gardait le rôle de la technologie.
Voilà. Alors je vous remercie Monsieur Habib Tava, je vous remercie Monsieur Bernard Cornu pour votre participation du sujet. Donc je vous rappelle, cette semaine en Iran, 3 satellites, dont deux nanosatellites ont été envoyés pratiquement en même temps dans l'espace. C'était notre CG donc de notre débat. Je vous propose de revoir ou voir notre débat si vous êtes venu en cours de route. N'hésitez pas à le trouver sur notre site internet ou encore sur nos réseaux sociaux. Nous avons également les débats précédents, notamment les débats depuis le 7 octobre visent en particulier la situation palestinienne dont nous, chaque semaine et chaque jour de débat, nous suivons et nous préoccupons du sujet et nous présentons nos condoléances à toutes les familles qui souffrent de ce qui se passe actuellement en Palestine, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza. Je vous dis donc au revoir, c'est là que se finit notre débat. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet de débat, ici, dans les studios de Presse TV, dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Chers amis auditeurs, merci d'être avec nous pour un autre programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme.
La mission iranienne auprès des Nations Unies affirme que Téhéran n'a aucun lien avec les attaques contre les forces américaines dans la région, car elles sont liées au conflit entre les groupes de résistance et l'armée américaine. La mission a publié un communiqué dimanche soir après une attaque de drone contre une base américaine à la frontière entre la Jordanie et la Syrie, qui s'est soldée par la mort de 3 forces américaines. Le communiqué indique que l'Iran n'a aucun lien avec l'attaque, ajoutant que l'incident faisait partie du conflit entre l'armée des États-Unis d'Amérique et les groupes de résistance de la région, qui ripostent en représailles. Le président américain Joe Biden a imputé l'attaque à des groupes soutenus par l'Iran, principalement basés en Irak. L'attaque a fait 3 morts et au moins 34 blessés parmi les soldats américains. C'est la première fois que des militaires américains sont tués dans la région depuis le début de l'attaque israélienne contre Gaza le 7 octobre 2023. Une attaque de drone contre un petit avant-poste américain en Jordanie a fait 3 morts et 25 blessés parmi les militaires américains. L'attaque a eu lieu ce dimanche dans le nord-est de la Jordanie, près de la frontière avec la Syrie, marquant le premier cas de mort de soldats américains dans la région depuis le début de la guerre à Gaza début octobre. Dans un communiqué, le CENTCOM a confirmé que 3 soldats américains ont été tués et 25 autres blessés dans une attaque de drone à sens unique qui a touché une base américaine dans le nord-est de la Jordanie. L'attaque intervient dans un contexte d'escalade des tensions dans la région alors qu'Israël poursuit sa guerre brutale contre la bande de Gaza. L'Iran a condamné les allégations d'Israël contre plusieurs employés de l'Agence palestinienne pour les réfugiés, UNRWA, les considérant comme une nouvelle mesure malveillante et faisant partie du comportement inhumain du régime sioniste envers les Palestiniens. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré dimanche 28 janvier qu'Israël avait formulé ces allégations pour justifier ses restrictions sur les organisations humanitaires actives dans la bande de Gaza assiégée et en Cisjordanie occupée. Il a ajouté que ces accusations visent également à inciter Israël à commettre impunément le crime odieux et sans précédent, consistant à tuer au moins 150 membres d'institutions internationales telles que l'UNRWA depuis début octobre. Le diplomate iranien a également déploré la décision des pays occidentaux de réduire le financement de l'UNRWA sur fond d'allégations israéliennes. Un tel comportement signifie pratiquement accepter les affirmations d'un régime criminel qui, selon un arrêt rendu par la Cour internationale de justice, est accusé de génocide des Palestiniens et doit être tenu pour responsable devant cette Cour et devant l'opinion publique mondiale, a déclaré le diplomate iranien. Nasser Kanani a noté que la pression sur l'UNRWA, la restriction de ses activités ou le refus de l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes qui souffrent de conditions de guerre critiques et sont confrontées à la menace de génocide n'indique rien d'autre qu'une déclaration de confiance dans les allégations d'un criminel de guerre accusé de génocide. Au lieu d'annoncer leur décision de suspendre le financement de l'UNRWA, ces pays feraient mieux de suspendre leur assistance militaire et diplomatique à Israël, a déclaré le responsable iranien. L'Iran appelle toutes les nations en quête de liberté, en particulier les pays musulmans, à résister à Israël et à faire tout leur possible pour soutenir les Palestiniens, a ponctué Nasser Kanani, porte-parole de la diplomatie iranienne. Le porte-parole des Nations Unies a annoncé lundi soir que le régime sioniste n'avait pas encore officiellement présenté ses arguments face aux accusations portées contre les employés de l'UNRWA. Le secrétaire général est personnellement horrifié par les accusations contre des employés de l'UNRWA, mais son message aux donateurs, en particulier ceux qui ont suspendu leurs contributions, est de garantir au moins la continuité des opérations de l'UNRWA, alors que des dizaines de milliers de membres du personnel travaillent avec dévouement dans toute la région, a déclaré Stéphane Dujarric. Après la décision des États-Unis, de l'Australie et du Canada visant à suspendre l'aide financière à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, d'autres dirigeants de pays européens rejoignent désormais cette coalition anti-palestinienne. 6 pays européens ont suspendu l'aide financière à l'Office des Nations Unies pour les réfugiés aux Palestiniens en raison d'allégations selon lesquelles certains employés de l'agence onusienne auraient été impliqués dans les attaques du Hamas contre le régime sioniste le 7 octobre. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suisse et la Finlande se sont joints aux États-Unis, à l'Australie et au Canada pour geler le financement de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Tel Aviv n'a d'autre choix que d'accepter un accord pour mettre fin à la guerre. Un expert israélien a souligné que Tel Aviv était obligé d'accepter l'accord d'échange de prisonniers et mettre fin à la guerre, affirmant que, conformément à cet accord, des milliers de prisonniers palestiniens seront libérés en contrepartie des prisonniers israéliens détenus par la résistance palestinienne. En ce moment, il paraît que nous sommes obligés d'accepter un accord sur l'échange de prisonniers pour mettre fin à la guerre et permettre aux habitants de Gaza de rentrer chez eux. Admis dimanche 28 janvier, Shimon Schiffer, dans une note publiée par le journal israélien Yedioth Ahronoth. Après que l'armée israélienne n'ait réussi à atteindre aucun de ses objectifs déclarés lors de son opération terrestre à Gaza, une autre division des militaires israéliens s'est retirée dimanche de Gaza, ce qui démontre l'échec des tentatives des sionistes à libérer les prisonniers israéliens détenus par le Hamas. La télévision israélienne a rapporté que l'armée avait retiré la brigade Kiryati, stationnée au nord et à l'est de la ville de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. Les médias israéliens présentent Kiryati comme la 4e brigade de réservistes de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Yedioth Ahronoth a également estimé qu'avec le retrait de la plupart des forces armées israéliennes de la bande de Gaza, l'horizon d'une victoire complète s'éloignait de jour en jour. La résistance islamique irakienne a souligné que le feu vert donné par Washington aux discussions sur l'avenir des forces américaines en Irak n'aurait pas été possible sans les frappes de la résistance. Le mouvement de résistance irakien a souligné vendredi 26 janvier dans un communiqué que les lois du Parlement et le soutien public à l'expulsion des forces étrangères n'avaient pas abouti ces dernières années en raison de l'imposture des États-Unis. Les États-Unis cherchent à mettre en œuvre leur plan néfaste en Irak et dans la région. Et si Washington a cédé à la demande du gouvernement irakien d'entamer des négociations sur l'avenir de ses forces, c'est à cause des attaques de la résistance, explique le communiqué. La résistance irakienne a souligné que les États-Unis ne comprenaient que le langage de la force. Au cours des années de lutte, nous n'avons vu de la part de l'ennemi américain rien d'autre que la tromperie et l'arrogance. Les États-Unis ont toujours tenté de gagner du temps pour mettre en œuvre autant que possible leur plan diabolique, ajoute le communiqué sur l'application Telegram. Citant cette déclaration, le site d'information Al-Ahed a rapporté que la réponse de la résistance irakienne aux États-Unis sera de poursuivre ses opérations contre la présence étrangère. Nous mettons en garde contre l'octroi de l'immunité à un groupe étranger sous quelque prétexte que ce soit, met en garde la résistance irakienne. Depuis la guerre israélienne contre Gaza, lancée le 7 octobre et soutenue par les États-Unis, les bases américaines en Syrie et en Irak sont régulièrement prises pour cible par la résistance irakienne en soutien à Gaza. La résistance islamique d'Irak considère les États-Unis comme le principal responsable des attaques de l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Elle a averti qu'elle poursuivrait ses opérations contre les bases ennemies tant que les attaques contre le peuple palestinien se poursuivraient. Le porte-parole des forces armées yéménites a fait part lundi 29 janvier d'une opération contre un navire de la marine américaine dans le golfe d'Aden en réponse aux récentes attaques américano-britanniques contre le territoire yéménite. La marine yéménite a mené une attaque au missile dimanche contre le navire américain Lewis B. Baller alors qu'il traversait le golfe d'Aden, a annoncé le général de brigade Yahya Sari dans un communiqué. Cette attaque a eu lieu après qu'un pétrolier britannique a été pris pour cible par l'armée yéménite vendredi soir, alors qu'il transportait du carburant pour les avions de chasse israéliens. Le porte-parole des forces armées yéménites a souligné que l'une des missions de son navire américain était d'apporter un soutien logistique aux forces américaines ayant participé à l'attaque contre le Yémen. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine.
Thank you.